La main à la pâte, un cycle d'émissions proposé par Impact Centre. Dans chaque émission, je vous emmène à la rencontre d'associations, d'élus ou de citoyens qui mettent la main à la pâte pour rendre le milieu agricole et rural plus durable. À partir du printemps 2023, Impact 37 devient partenaire du podcast. Désormais, j'enregistrerai les émissions avec Julie, chargée de communication de l'association. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Stéphanie, Mathieu et Anthony pour parler foncier agricole. Donc bonjour à tous, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, donc nous dire un petit peu ce que vous faites et où vous vous situez?
Donc Anthony, moi je suis en GAEC dans une ferme bio en agriculture paysanne qui produit des volailles, un peu de miel et on est sur 95 hectares de culture.
Mathieu, moi je suis paysan boulanger et maraîcher sur une ferme collective en agriculture bio et paysanne également. On est 7 dans l'équipe de travailleurs et on fait donc du maraîchage, des céréales qu'on transforme en farine et en pain au levain sur une ferme de 65 hectares.
Stéphanie, je suis maraîchère sur la commune de Truy, en Neuilly, sur une parcelle qui fait 5,7 hectares.
Je précise qu'on se trouve en Indre-et-Loire pour cet épisode. Et on est aussi avec Julie Joyer d'Impact 37, comme pour la dernière émission. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la situation du foncier agricole aujourd'hui en région Centre-Val de Loire ?
La situation du foncier agricole en région centre, je ne sais pas si on est les mieux placés pour en parler. On peut plutôt, nous, vous parler du contexte local, puisque Anthony et moi sommes référents fonciers pour la Confédération paysanne de Touraine. Donc on a découpé un peu le département en différents territoires et on a chacun notre petit secteur sur lequel on essaye de faire de la veille et du suivi un peu de ce qui s'achète, de ce qui se vend, à quel prix, de ce qui se loue, etc., des mouvements fonciers. Moi, je suis plutôt sur le côté sur le secteur du Lauchois. Bon, ce qu'on observe, c'est plutôt c'est une tendance assez, qui date un peu maintenant, hein, qui est régulière. C'est une tendance à l'agrandissement. Des agriculteurs qui partent à la retraite et avec très peu de projets de reprise et d'installation derrière. Les reprises se font la plupart du temps par des voisins qui sont dans une démarche d'agrandissement au fur et à mesure des cessations d'activité des voisins. Donc des fermes de plus en plus grandes en termes de surface, mais aussi en termes de capitaux engagés, en termes d'endettement, et donc des outils de travail qui sont de plus en plus difficiles à transmettre. Donc on est un peu dans un cercle vicieux. L'absence de projets d'installation fait que c'est des projets d'agrandissement qui voient le jour, mais ces projets d'agrandissement font que les fermes deviennent trop grandes et sont de plus en plus difficiles à transmettre, donc de moins en moins de projets d'installation. C'est la tendance générale à peu près partout en France, hein, donc on peut le dire probablement en région centre, mais en tout cas chez nous, ici, c'est le cas, avec bien sûr des exceptions. On voit quand même de plus en plus d'installations dans notre réseau de l'agriculture paysanne sur des structures plus modestes, mais qui ne correspondent pas toujours aux structures qui sont à transmettre. C'est-à-dire qu'on a des porteurs de projets qui arrivent avec des projets d'installation en maraîchage sur 2, 3, 4 hectares... Des paysans boulangers qui veulent s'installer sur, je sais pas, une trentaine d'hectares, des projets en élevage ovin ou caprin, pareil, sur 30, 40, allez, 50 hectares. Sauf que les fermes, la typologie des fermes à reprendre ici, c'est plutôt une centaine d'hectares, voire 150, 200 ou plus, quoi.
On voit qu'il y a de plus en plus de projets, comme là, par exemple, il y a eu à Amboise encore récemment de la construction sur des terres agricoles. Est-ce qu'on peut dire que le foncier agricole est en danger dans le département ?
Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres récents. Effectivement, le réseau Terre de Liens, notamment, alerte sur l'artificialisation des terres agricoles et des artificialisations qui sont irréversibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bétonné des terres pour faire des routes, des lotissements, des parkings de supermarchés, des zones industrielles, c'est difficile de faire machine arrière. Donc le rythme actuel, je ne sais pas, à l'époque on parlait d'un département tous les 7 ans qui disparaît sous le béton, donc des terres agricoles, c'est à peu près, la surface agricole française c'est à peu près la moitié du territoire national. Et cette moitié de territoire national qui sert à nous nourrir est grignotée au fur et à mesure des infrastructures routières et autres zones commerciales et lotissements. Donc effectivement, on est encore dans cette dynamique-là qui nous inquiète, nous, en tant que paysans, et qui, à mon avis, n'est pas suffisamment prise en compte par les pouvoirs publics, bien qu'on entend des déclarations de ministres ou autres qui nous a dit plusieurs fois « c'est terminé maintenant, c'est zéro artificialisation ben, », on continue à voir des projets qui voient le jour et qui vont pas dans le sens de ce qui nous est annoncé, quoi. On entend parler du projet d'autoroute Castres-Toulouse en ce moment, 62 km d'autoroute, je crois, plusieurs centaines d'hectares, dont des terres agricoles, mais aussi des zones humides et des forêts, qui vont disparaître pour faire gagner un peu plus de temps aux automobilistes entre Castres et Toulouse.
Comment ça se passe quand on veut acheter des terres en tant que paysan, agriculteur ? Est-ce qu'il existe une régulation au niveau de l'achat ?
Pour l'achat, oui, à partir d'une certaine surface, en fait, ça passe par la SAFER, donc la SAFER départementale la plupart du temps. Et donc, il y a des candidatures avec des projets. Et puis après, il y a un comité directeur, un comité technique, qui va passer en revue les différents projets de reprise et qui va statuer sur un candidat. Donc ça, c'est la plupart du temps sur de l'achat, en fait, la procédure. Après, sur les plus petites surfaces, ça peut passer en dehors de la SAFER, donc sur du gré à gré entre le vendeur et l'acheteur. Donc après, sur les exploitations agricoles, souvent on est sur des surfaces importantes, parfois avec plusieurs propriétaires. Donc la SAFER, théoriquement, elle a aussi un rôle d'arbitrage et justement de régulation pour pouvoir aussi privilégier les jeunes agriculteurs à l'installation, les pratiques plus agroécologiques comme l'agriculture biologique. Bon, après, voilà, ça reste de la négociation avec des gens autour d'une table, quoi. Donc, où nous, candidats, enfin, je dis nous parce que c'était notre cas sur un projet, on ne participe pas à ce comité. À la différence pour de la location, où ça passe en CDOA, le comité départemental d'orientation agricole, là, il y a des représentants de différentes institutions aussi, mais le candidat, quand il est à l'installation, peut participer. Mais sinon, effectivement, quand c'est des rachats de terres après, c'est pareil, c'est des arbitrages en comité. Et ils vont sélectionner un candidat suivant aussi différents critères qui changent au fur et à mesure. Mais on va privilégier les jeunes agriculteurs, parfois l'agriculture biologique. Et puis sinon aussi d'autres critères comme la proximité par rapport à la ferme de l'exploitant qui veut s'agrandir.
Donc dans le réseau Impact, on porte notamment les valeurs de l'agriculture paysanne qui dit que chaque producteur, productrice doit pouvoir vivre décemment de son travail et ne pas chercher l'agrandissement démesuré de sa ferme. Pourquoi c'est important de ne pas céder à l'agrandissement, justement ?
En fait, la dynamique d'agrandissement, on la voit très bien en France depuis l'après-guerre, avec l'arrivée de la mécanisation, l'arrivée du pétrole, l'arrivée de la chimie, des semences certifiées, etc. Et effectivement, cette mécanisation et la chimie ont permis à des agriculteurs d'exploiter une plus grande surface. Sauf qu'aujourd'hui, on voit la limite de ce modèle-là. On est plutôt dans la dynamique inverse, de dire il faut sortir de la chimie et des énergies fossiles. Et donc, si la course à l'agrandissement continue, on ne peut pas sortir de... On est dans une impasse, en fait. Aujourd'hui, un agriculteur qui a 200, 300 hectares, qui en récupère 100 de plus, qui en a 400, comment est-ce qu'on peut lui demander de sortir de la chimie et du pétrole, en fait, et d'aller vers l'agriculture bio c'est juste pas possible pour lui. C'est devenu une nécessité, ce recours à ces artifices chimiques. Et on considère, nous, en agriculture paysanne, qu'il faut au contraire rester sur des structures à taille humaine pour pouvoir être plus autonome, sortir, en tout cas, être le moins dépendant possible de la chimie et du pétrole pour rendre nos systèmes d'exploitation plus durables, en fait, dans le temps. Voilà pourquoi on essaye de rester sur des petites structures et pour compenser un petit peu des structures moins grandes d'un point de vue... surface, on essaye d'être sur la création de valeur ajoutée sur nos fermes, le maintien de la valeur ajoutée par la transformation à la ferme, la vente en circuit court. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et ce temps-là, il est nécessaire pour capter la valeur ajoutée, mais c'est du temps qui n'est plus disponible pour s'agrandir et cultiver des hectares supplémentaires, quoi. on préfère partager les terres et que des collègues s'installent qu'agrandir nos fermes. Quoi. C'est un peu le projet qu'on a dans nos réseaux de l'agriculture paysanne, c'est de se dire on a besoin 1 million de paysans en France si on veut sortir de la chimie et du pétrole. Aujourd'hui, on est à peu près à 400 000 en France. Donc, voilà, ça permet de mesurer l'ampleur du travail.
Et qu'est-ce qui pousse les agriculteurs et producteurs à souhaiter concentrer toujours plus de terres ?
Ben en fait, on est dans. Je vous parlais de la dissonance entre un discours politique et ce qui se passe réellement dans les politiques publiques et sur le terrain. On nous encourage à relocaliser notre économie, relocaliser l'agriculture, à garder la valeur ajoutée dans les territoires. Et en même temps, on ne change pas la politique agricole commune, c'est-à-dire la politique européenne qui distribue les aides à l'agriculture. C'est-à-dire que les aides aujourd'hui sont toujours liées à la surface, c'est-à-dire. On a des droits à toucher de l'argent public qui sont liés à 1 hectare de terre et sans plafond. Donc on est 100 hectares, 300, 400, 1000, etc. C'est pas plafonné. Donc plus on a, vous comprenez bien du coup, que plus on a d'hectares, plus on touche d'aides. Et c'est des aides qui sont pas négligeables. Hein. C'est de l'ordre de 120 euros par hectare et par an, multiplié par le nombre d'années d'activité hein, de la structure. Donc c'est des mannes financières, c'est des situations d'aubaine sur lesquelles chacun essaye de se jeter. Et c'est pour ça que c'est un peu la guerre aux hectares. C'est les chasseurs de primes dans les campagnes qui essayent d'en avoir toujours plus pour toucher plus de primes. Et donc nous, on pense que tant qu'on ne changera pas la politique agricole commune basée sur l'aide à la surface, tant qu'on n'ira pas vers une aide à l'actif qui, justement, reconnaît la nécessité des hommes et des femmes dans les fermes et non pas la valorisation des hectares supplémentaires, eh ben, on ne changera pas cette dynamique-là, qui est une dynamique de fond déjà bien ancrée, quoi.
Tous les trois, vous avez été à l'initiative d'un projet assez nouveau, il y a plus de 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet d'achat ?
Donc, je vous disais tout à l'heure, moi, je suis référent foncier sur le territoire pour la Conf. Donc, je surveille ce qui est publié, notamment sur le site de la SAFER, et les appels à candidature. Quand des cédants souhaitent transmettre leur ferme, ils confient à la SAFER une mission de trouver des candidats. Et ils ne souhaitent pas les choisir eux-mêmes, donc ils demandent à la SAFER de faire ce travail-là. Comme disait Anthony tout à l'heure, ça se passe en comité technique. Donc là, je vois 40 hectares de terre à vendre sur la commune de Toxigny. Et il se trouve que nous, sur notre ferme à côté de chez nous, la ferme faisait que 19 hectares jusque-là. On est paysan boulanger, on n'était pas autonome sur notre production de céréales. Et on cherchait des terres, et si possible, les terres voisines de la ferme d'à côté, qui étaient cultivées par un céréalier de la commune d'à côté. Et donc les 40 hectares que je repère sont à côté de chez lui. Et donc, je me dis, ça va forcément l'intéresser. Il y a déjà 400 hectares, mais voilà, c'est plutôt dans le schéma que je décrivais tout à l'heure. Je pensais bien que ces 40 hectares près de chez lui allaient l'intéresser. Et donc, j'appelle la SAFER en disant, nous, on est intéressés pour candidater sur les 40 hectares près de chez notre voisin, finalement, pour pouvoir les échanger avec les 36 hectares que lui cultive près de chez nous. Et le conseiller SAFER me dit à ce moment-là... Ah oui, très bien, mais en fait, il faut que vous sachiez que les 40 hectares font partie d'un lot beaucoup plus grand, un lot de 102 hectares, et que le vendeur n'accepte que des candidatures sur l'intégralité de la surface. Donc en gros, vous candidatez sur les 102 ou rien du tout, votre candidature n'est pas recevable. Et donc suite à ça, j'ai contacté Anthony et Stéphanie, puisque des terres, les 60 hectares supplémentaires entre les 40 et les 102, là, se trouvaient pas loin de chez Anthony, et dans le secteur où Stéphanie cherchait à s'installer. Donc on s'est réunis ici même, chez Anthony. Ça s'est fait le jour même ou le lendemain, je crois, puisque le conseiller SAFER, en partant, me dit donc il me faut donc une candidature sur l'intégralité de la surface, et il me la faut avant la fin de la semaine sur mon bureau. Je pense qu'en se disant ça, il pensait que c'était plié et qu'il n'entendrait plus parler de nous, quoi. Sauf qu'on a réussi à se réunir rapidement tous les trois. J'ai expliqué à Anthony et Stéphanie que nous, ce qui nous intéressait, c'était les 40 hectares pour pouvoir les échanger avec les 36 hectares près de chez nous. On s'est tourné vers Stéphanie d'abord en disant « Stéphanie, tu es dans une démarche d'installation, tu veux combien d'hectares ?» Il y en a 62. Et je me souviens que Stéphanie a dit « 2 ». Il m'a dit « Mais Stéphanie, il y en a 62, prends-en 10 au moins. » Et on a réussi à la convaincre d'en prendre 5 au final. Et donc Anthony a candidaté, lui, sur le, sur le reste pour que ça fasse 102, quoi. Et donc, suite à ça, on a appelé Terre de Liens. Les référents de l'association régionale Terre de Liens, à qui on a expliqué notre projet collectif. Et à la fin de la semaine, il y avait un dossier déposé sur le bureau de la SAFER au nom de Terre de Liens. Donc c'était bien un achat par un candidat unique, Terre de Liens, mais pour plusieurs fermes derrière. L'installation de Stéphanie, la confortation pour Anthony et pour nous.
Et toi donc Stéphanie, est-ce qu'on peut dire que c'est... Est-ce que toi, tu t'attendais par exemple à candidater pour 102 hectares pour ton installation? Comment ça t'a aidé en fait dans ton installation?
Ça m'a permis de trouver des terres plus facilement. Effectivement, ça faisait quelques années qu'on cherchait et on n'arrivait pas à trouver une petite structure, une petite ferme à reprendre. Et c'était l'occasion de pouvoir commencer sur une petite surface sans avoir trop d'investissement.
Et toi, Anthony, qu'est-ce que ce projet, comment tu l'as accueilli?
Moi, j'étais donc à ce moment-là tout seul sur la ferme. Il y avait le projet qu'Angela me rejoigne en 2020. Donc ça, c'était en fin 2018, enfin 2019, je pense que le dossier s'est fait. Et donc, voilà, moi, j'étais dans l'entre-deux. J'étais sur un système qui fonctionnait. J'avais un peu de mal à être autonome dans le dispositif que je voulais faire par rapport... Donc, je cultive des terres pour produire des céréales, pour nourrir les volailles. Mais je voulais aussi, justement, avoir des rotations longues en prairie pour les abeilles et puis pour pouvoir avoir agronomiquement quelque chose un peu plus résilient. Et l'opportunité qu'il y avait, c'est qu'aujourd'hui, j'avais quelques parcelles, moi, à l'époque, qui étaient en CMD SAFER, donc sur des bails très précaires, que je pouvais perdre d'une année sur l'autre. Et là, c'était l'opportunité d'avoir des terres qui étaient 500 mètres du siège de ma ferme, sur un bail rural, donc de aussi sécuriser dans le temps la ferme, et puis aussi de sécuriser l'arrivée d'Angela. Et à ce moment-là aussi, j'avais une surface, j'avais 40 hectares, ce qui était bien, mais ne me permettait pas d'investir dans un tracteur et du matériel pour cultiver, en fait. Donc en ayant un peu plus de surface, par le dispositif aussi des ZPAC, ça permettait d'assurer le financement d'un tracteur et donc d'être plus autonome dans la culture. Parce qu'avant, j'étais obligé de faire à façon. Et quand on est petit et qu'on fait faire à façon, on passe souvent en dernier, quoi. Donc, ce n'était pas toujours simple à gérer. Donc, voilà, ça tombait aussi à un moment où j'avais des questionnements et ça a permis de passer un cap à ce moment-là, que je ne regrette pas aujourd'hui, qui n'était pas forcément initialement prévu, quoi. Mais après, c'était intéressant de faire la démarche à plusieurs, de se retrouver aussi dans un... à la SAFER avec une dynamique collective. Pour avoir été avant tout seul, c'est pas pareil aussi, quoi. Ça permet aussi d'être un peu plus, se sentir un peu plus fort. Et c'est chouette que le projet ait pu aller au bout aussi par rapport aux possibilités que ça ouvre derrière. Je saluerais aussi qu'on a eu un conseiller qui était quand même très disponible et très ouvert à nos initiatives, quoi. Ce qui a permis aussi d'avancer correctement sur le projet.
Bah, je dirais même un conseiller qui a fait son travail et qui l'a bien fait, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui a compris ce qu'on voulait faire, qui, la première fois qu'on s'est vu, croyait pas vraiment qu'on allait aller au bout, mais au final, quand il a eu le dossier sur son bureau, il a pris les choses en main, il a mené des négociations foncières avec les autres candidats, parce que nous, on demandait un échange de terres, c'était quand même pas gagné. Si on l'avait mené nous-mêmes, ça aurait probablement pas abouti. Il a fait ce travail-là, il a fait le travail aussi auprès des vendeurs de finalement accepter que la vente se fasse auprès de plusieurs candidats, puisque bien que ce soit Terre de Liens qui a acheté la grosse majorité, il y a du coup les 40 hectares qui ont été achetés par notre voisin. Il y a eu quelques hectares achetés par un autre voisin d'ici. Voilà, qui a aussi un échange de terre pour Anthony. Il fallait présenter tout ça à un comité technique qui comprenne la situation et puis qui vote en ce sens-là, en disant, oui, on va voter dans le sens de quelques agrandissements. Au final, les voisins céréaliers se sont agrandis de quelques hectares seulement, mais deux projets de confortation, une installation, enfin, c'était un peu atypique comme projet, mais il a su réunir tout le monde autour de ce scénario-là et le faire voter en comité technique. Donc, effectivement, il faut saluer ce travail-là qui a été fait par le conseiller SAFER cette année-là.
Et est-ce qu'il y a souvent des concurrents, du coup, dans ces appels à projets, appels à candidature pour avoir du foncier?
Il y a toujours des concurrents. Hein. Je parlais tout à l'heure de la chasse aux primes. Ça passe par la chasse aux hectares. Donc il y a des gens qui sont candidats assez systématiquement quand des dossiers se présentent près de chez eux et même plus loin de chez eux. Hein. Des gens qui sont prêts à faire des kilomètres. Ils ont du matériel, du gros matériel. Ils ont parfois des salariés. Donc ils n'hésitent pas à être candidats. Et bah, ils ne remportent pas toujours la mise, mais ils tentent leur chance, quoi.
Donc ça, c'était votre projet donc, il y a 2-3 ans. Est-ce que de cette initiative, on peut retirer bah, quelque chose qui peut être reproductible ? Qu'est-ce que vous conseilleriez à des paysans et paysannes pour pouvoir bah, conforter leurs terres ou s'installer ? Est-ce qu'il y a une sorte de méthode qu'on peut retirer de cette initiative que vous avez eue ?
Ce que j'en retire, c'est que bah, voilà, l'importance d'avoir du réseau et la connaissance des différents acteurs de son territoire pour le jour où, comme Mathieu le disait, on voit quelque chose, pouvoir s'en saisir et pouvoir solliciter bah, l'élan de d'autres personnes, soit en phase d'installation ou de confortation. Donc là, voilà, la vie du réseau au niveau local. Et puis, voilà, l'autre, aussi ne pas hésiter. Et souvent, voilà, dans le profil des personnes qui composent notre réseau, ne pas hésiter à postuler sur des surfaces qui peuvent paraître plus grandes que ce qu'on a l'impression d'avoir vraiment besoin. Souvent, bah, malgré tout, et aujourd'hui, le dispositif effectivement des aides est plutôt à la surface, donc ça permet quand même d'asseoir un petit peu plus et de sécuriser une installation. Et ça permet aussi de la sécuriser dans son autonomie. D'avoir de la surface, qu'on soit en élevage ou en maraîchage ou en grande culture, ça permet quand même d'asseoir le système agronomique et de le rendre autonome par rapport à l'extérieur, et c'est aujourd'hui ce qu'on cherche par rapport aux perspectives climatiques ou même commerciales qu'on peut avoir.
Moi, ce que j'ai envie de dire à nos collègues installés ou futurs installés, c'est que c'est important de pouvoir s'appuyer sur le réseau, notamment le réseau des référents fonciers dont je parlais tout à l'heure à la Confédération Paysanne, mais pour être au courant de ce qui se passe autour de chez soi, pour le fait de se dire... Bah, c'est possible de récupérer quelques hectares. Souvent, on entend « bah non, mais c'est pas possible, c'est pour les plus gros, c'est toujours les plus gros qui remportent tout bah, ». Je trouve que là, c'est un bon exemple. Bah, c'est pas vrai, en fait. Quand on est au courant suffisamment tôt, quand on est déterminé, quand on connaît bien le fonctionnement des institutions, ça, c'est important. Et du coup, l'importance du réseau, c'est d'amener cette connaissance-là. Effectivement, il se trouve que nous, on était assez bien placés, mais on peut aussi mettre ses compétences et cette connaissance au service d'autres porteurs de projets qui le seraient moins. C'est plutôt ce qui s'est passé avec Stéphanie, qui connaissait moins le fonctionnement des institutions et qui a pu en bénéficier. Donc voilà, pas hésiter à se rapprocher de nous et à y croire. Et en même temps, libérer aussi un peu l'imaginaire en se disant « c'est pas parce que je cherche 2 ou 3 hectares pour m'installer qu'au final, je vais pas candidater sur 102 hectares, parce qu'on ben, on peut le faire à plusieurs. » Et c'est quand même les profils de fermes qui sont à transmettre. Il y a plein de gens qui passent en stage chez nous, plein de gens qui cherchent à s'installer en maraîchage, et qui cherchent 3, 4 ou 5 hectares. Et ils cherchent longtemps, 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 parce qu'elles n'existent plus, les fermes avec une maison d'habitation, un hangar et 5 hectares. Enfin, ça, c'était il y a 60 ans, mais et encore plus, peut-être. Ça n'existe plus. Donc maintenant, il faut imaginer reprendre des grandes surfaces et les reprendre à plusieurs. Alors, pas forcément à plusieurs dans une seule formule collective comme ça se passe chez nous. On peut aussi imaginer des juxtapositions d'installations, des gens qui s'installent seuls ou à deux en maraîchage, à côté de quelqu'un qui va s'installer à deux en paysan boulanger, à côté de quelqu'un qui va faire de l'élevage. Et en plus, on peut imaginer des synergies entre ces fermes. C'est vraiment restructurer des grandes exploitations céréalières ou des grandes exploitations d'élevage en imaginant un système diversifié qui va avoir aussi un intérêt en termes de complémentarité agronomique, complémentarité de commercialisation... mutualisation de matériel, coup de main entre les différents travailleurs, puisqu'on a des pics de travail à des saisons différentes. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à imaginer et à mutualiser pour aller dans ce sens-là, quoi. D'autant plus que, on ne l'a pas dit au début, mais la moitié des paysans en France aujourd'hui a plus de 55 ans. Donc, bien qu'on essaie de nous repousser l'âge de départ à la retraite, on peut quand même imaginer que dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir la moitié des fermes à reprendre, quoi. Donc, aujourd'hui, on n'est plus dans la situation d'il y a 10 ou 15 ans où on pouvait dire que le frein à l'installation, le frein principal, c'était l'accès au foncier. Aujourd'hui, il y a des terres qui se libèrent, si tant est qu'on soit au courant suffisamment tôt et qu'on ait une stratégie pour les prendre. Mais le principal frein, c'est d'avoir des porteurs de projets qui soient prêts à s'installer. Et aujourd'hui, on manque plutôt de porteurs de projets que de terres pour installer ces gens-là, quoi.
Eh bien, merci à tous pour ces informations sur la restructuration du foncier. Et on se retrouve pour un prochain épisode le mois prochain. C'était La main à la pâte, l'émission mensuelle du réseau Impact Centre.